Europe 1.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Et je salue mes confrères ce soir. Bonsoir à Jérôme Béglé.
Bonsoir.
Directeur général du journal du dimanche. Bonsoir à Bruno Jeudy.
Bonsoir Pierre.
Rédacteur en chef politique de Paris Match et Louis Dragnel.
Bonsoir Pierre.
Chef du service politique d'Europe 1. Et donc pour la composition du gouvernement, puisque c'est tombé tout à l'heure, un peu en plein milieu de l'après-midi à 16h30, que vous n'avez peut-être pas eu le son, eh bien le voici, les ministres énoncés comme d'habitude par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler.
Sur la proposition de la première ministre chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Mme Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Madame Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Monsieur Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Madame Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer. Madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Voilà, bon, je vous épargne les ministres délégués et les secrétaires d'État, sachant que Gabriel Attal va au budget et que Olivia Grégoire est porte-parole du gouvernement. Alors, il y a ceux qui restent, ceux qui partent, ceux qui restent mais qui changent. Ce qu'on aurait peut-être voulu voir entrer, en tout cas, il y avait des rumeurs. Il y a plusieurs familles. On commence par quoi ? Par ceux qui restent, peut-être, Bruno Jeudy ? Enfin, je ne sais pas, comme vous voulez.
Bah, c'est d'abord une équipe de 28 ministres, enfin une équipe de 28 personnes, 28 membres de ce gouvernement, Elisabeth Borne comprise. On est pratiquement, on est la parité parfaite. Un gouvernement assez jeune et je dirais un subtil équilibre entre les sortants et les entrants. En gros, Emmanuel Macron, il a quasiment gardé ceux qui trouvaient les meilleurs de son équipe sortante, assez nombreux. Je rappelle qu'ils étaient un peu plus de 40 ou 41. Donc, il a gardé un peu les tauliers, entre guillemets, hein, qui sont même promus. Bruno Le Maire devient numéro 2 dans l'ordre hiérarchique. Gérald Darmanin, numéro 3, pour bien encadrer Elisabeth Borne, histoire que la droite, elle encadre tout ça assez correctement. Vous ajoutez Sébastien Lecornu aux armées, et là, vous avez quand même un bon pack. Il y a peu de figures de la société civile, contrairement à 2017.
Bah, il y en a une, voilà, tout le monde parle d'une entrée au gouvernement,
une,
à l'éducation nationale.
Pape Ndiaye, qui est la surprise de ce, principale surprise de ce gouvernement, voilà, c'est historien, spécialiste des minorités, de l'immigration, qui dirigeait jusqu'à présent le musée de l'immigration, et qui est une personnalité assez détonnante, qui remplace Blanquer, qui avait d'autres caractéristiques, qui était plutôt, lui, j'allais dire, de formation classique défendant la laïcité. Donc c'est quand même... Mais il a une réforme difficile à mettre en œuvre. Et moi, je dirais, pour terminer, et c'est mes confrères, l'autre surprise, même si ça peut paraître étonnant de dire ça, c'est Catherine Colonna. Pourquoi ? Ben, c'est une diplomate expérimentée. C'est une revenante dans le jeu politique. Elle a été, pour nos plus anciens auditeurs, s'ils se passionnent pour la politique, elle fut la porte-parole historique de Jacques Chirac jusqu'en 2002.
C'est la Chiraki qui revient.
C'est la Chiraki qui revient, avant de devenir secrétaire d'État aux affaires européennes. Puis, elle n'avait pas été retenue par Nicolas Sarkozy pour rester au gouvernement en 2007. Ça avait été d'ailleurs un petit point de friction entre Chirakiens et Sarkozistes. Elle est allée faire carrière dans la diplomatie, une belle carrière, ambassadrice à Londres, ambassadrice à...
Et le titre d'ambassadeur de France. Il n'y a que trois femmes aujourd'hui qui ont ce titre-là et qui peuvent le conserver à vie.
Et surtout, elle arrive, c'est quand même une femme extraordinaire qui arrive en pleine guerre en Ukraine.
Alors, c'est difficile de parler de tout le monde en même temps. On va parler de Catherine Colonna aussi, et je cite Chirac aussi, parce que c'est évidemment la période où on disait non à la guerre. Enfin, on y reviendra. Mais d'abord, revenons quand même sur cette nomination assez inattendue de Pape Ndiaye. Écoutez, il y en a un qui a réagi, c'est Jean-Luc Mélenchon, directement sur cette nomination.
J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu peu d'audace, parce que quand même, il y en a une. La nomination d'un grand intellectuel, que sur ce plan au moins, nous voulons saluer, M. Pape Ndiaye, qui était le président ou le directeur jusqu'à une date récente du musée de l'immigration et qui est dans l'élite intellectuelle de notre pays. Et je tiens à dire d'entrée de jeu que si je ne sais rien de ses intentions à propos de l'éducation nationale, cependant, je partage l'appréciation qu'il avait formulée à propos du président de la République dans une interview au Monde de juillet 2019. Il avait dit « Quant à Emmanuel Macron au centre droit, s'il lui arrive de s'exprimer avec éloquence, comme lors du 10 mai à propos de la mémoire de l'esclavage, on peine, a dit Monsieur le ministre de l'Éducation, à propos de M. Macron, à discerner une politique ou même un point de vue consistant. »
Voilà, ça c'est fait, comme on dit. Je signale juste que les passations de pouvoir continuent et qu'en ce moment, on surveille de très près celles qui se passent justement au ministère de l'Éducation nationale. Et dès que Pape Ndiaye prend la parole, évidemment, nous diffuserons son discours. Louis Dragnel.
Pape Ndiaye, en fait, c'est l'anti-Blanquer. C'est ça qui est très étonnant. C'est un vrai virage politique. Et c'est une sorte d'ailleurs de désaveu pour la politique qui a été menée par Jean-Michel Blanquer. Moi, j'ai exhumé quelques phrases, quelques citations de Pape Ndiaye qui dit notamment « Notre mission, c'est de faire de l'immigration un élément central de l'histoire nationale. » Il dit également, par exemple, « Il existe bien un racisme structurel en France. Il y a du racisme dans l'État. » Ou encore, au sujet, vous savez, des violences présumées violences policières, « Il y a un déni de la France sur les violences policières. » Donc, clairement, c'est quasiment
c'est un
choix.
Alors,
c'est quelqu'un de très brillant et tout, mais c'est la caricature de tout ce que n'est pas Jean-Michel Blanquer. Il faut se souvenir, c'était d'ailleurs la polémique qui avait été lancée ici même au micro d'Europe 1, où Jean-Michel Blanquer avait, s'était prononcé de manière très ferme contre le port du voile à l'école. Sur toutes ces questions-là, eh bien, c'est une mue, pour le coup, d'Emmanuel Macron, qui intègre évidemment le résultat de l'élection présidentielle. Il veut parler clairement aux mélenchonistes. Il veut aussi se réconcilier, avec, je pense, avec les syndicats de profs. Et donc voilà,
vous
c'est un
que
choix.
Les syndicats de profs vont être unanimes à la nomination.
Pas unanime, mais en tout cas, ça leur plaira plus que Jean-Michel Blanquer. Voilà, c'est un choix clairement.
Pour c'est le ministère
très à gauche.
Hein, tous les ministres de l'Éducation vous diront que c'était extrêmement difficile d'être ministre de l'Éducation nationale. Jérôme Béglé.
Alors, Pape Ndiaye, c'est évidemment l'anti-Jean-Michel Blanquer, mais ça remet aussi en perspective ce que Emmanuel Macron pense du bilan de son ancien, maintenant ministre de l'Éducation nationale. Ouais. Parce qu'en gros, il opte pour le plan B et pour un virage à au moins 180, enfin au moins, oui, entre 90 et 182 degrés, puisque il n'était d'accord sur pas grand chose. Par ailleurs, je prédis une cohabitation
avec Gérald Darmanin
difficile avec Gérald Darmanin,
ouais,
qui est à peu près à l'opposé des prises de position. Je dis bien prises de position parce que, comme on dit, les promesses, c'est les déclarations du duc d'Orléans n'engagent pas le roi de France.
Oui.
Mais si Monsieur Ndiaye a les mêmes opinions, les mêmes prises de position, les mêmes déclarations une fois ministre, je ne suis pas certain que Gérald Darmanin il trouve chez lui le meilleur allié. En revanche, Éric Dupond-Moretti, pour moi, garde des sceaux surprise, néanmoins, pourrait trouver un petit allié ou quelqu'un qui, sur certaines de ses positions, épouse ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il a fait avec la nomination de Pape Ndiaye. Donc, il y a quand même des personnalités fortes qui ont un cursus et qui ont un background, si comme on dit en mauvais français, assez imposant, qui pourraient se regarder en chaîne faïence dans les premières semaines ou les premiers mois de ce gouvernement. Donc, ce ne sera pas forcément de tout repos pour la première des ministres, Madame Borne, pour gérer ces personnalités exubérantes, cultivé, mais aux positions sur ces sujets cruciaux très différentes.
Alors Jérôme, puisque vous avez lâché le mot, j'allais dire lâcher les chiens, mais je me retiens, vous avez parlé d'Éric Dupond-Moretti. Ça, honnêtement, est-ce que ça nous a surpris?
Oui, clairement, oui, c'était...
Ah bah attendez, je me posais la question à Jérôme.
Vous me regardiez, du coup, je vous réponds.
Peut-être s'appelle Jérôme.
pas encore.
Son deuxième prénom.
Si on avait dû faire un petit pronostic sur les chances d'Éric Dupond-Moretti de rester place Vendôme, personne n'aurait misé un copec ou un rouble fut-il à la hausse sur cette éventualité-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aux yeux du président de la République, il n'a pas démérité dans sa tâche.
Ouais.
Ça signifie aussi peut-être que Éric Dupond-Moretti, qui a été extrêmement mal accueilli par les syndicats de la magistrature quand il a été nommé il y a maintenant 2 ans, je rappelle que les juges avaient dit que c'était une déclaration de guerre à leur endroit. Mmh. 2 ans plus tard, on leur redéclare la guerre, si je prends leur vocabulaire charmant de l'époque.
Alors qu'on nomme une magistrate à l'égalité femme-homme, Isabelle.
Une magistrate Rome. Qui d'ailleurs avait eu, dans le journal du dimanche la semaine dernière, des propos pas très gentils sur son ministre de tutelle, Éric Dupond-Moretti.
Voilà.
Ce qui veut dire que là aussi, il y a une petite cohabitation un peu plus feutrée qui s'engage. Mais effectivement...
Ils ne sont pas sur le même créneau, elle n'est pas sous sa tutelle.
Mais elle le fut puisqu'elle était madame violence
conjugale,
si je puis dire. Bon. En tout cas... quel est le projet d'Éric Dupond-Moretti? Bon, ben, certainement de continuer la politique qu'il a menée, mais je pense que les juges vont le trouver conforté dans la petite guéguerre qui les a menés et que lui-même va voir comme un encouragement le fait de remplir à ce poste-là dans l'espèce de, comment dirais-je, de guérilla qu'il a menée contre certains juges.
Alors, passation en ce moment entre Amélie de Montchalin et Sébastien Guérini au ministère de la fonction.
Stanislas Guérini.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Sébastien.
Non, c'est vraiment pas Sébastien.
Le cornu, c'est au ministère des Armées.
Stanislas Guérini, pardonnez-moi mon cher Guérini, maintenant il ne veut pas. Pardon, Bruno.
Non, globalement, je pense que Je trouve quand même que la continuité l'emporte quand même sur le changement dans ce gouvernement. Il y a quand même beaucoup de ministres sortants, comme on dit. Les principaux sont soit maintenus dans leur ministère d'origine, soit promus dans des ministères plus importants. Je pense à Sébastien Lecornu qui passe de l'outre-mer aux armées. Et la génération Macron, entre guillemets, qui elle-même est promue. Gabriel Attal va au compte public, Olivia Grégoire devient porte-parole, elle était sortante, tout ça, c'est des visages.
C'est une belle ascension pour Gabriel Attal, d'ailleurs.
Absolument, c'est la plus belle ascension.
C'était le ministère dont il rêvait, en plus.
Voilà, absolument. Et puis lui, il essaie de tracer un parcours. On sait bien que le budget dans une carrière ministérielle, ça peut vous mener loin.
C'est vous qui donnez, quand vous êtes ministre du budget, les crédits à tous les ministères.
Ah bah oui. Donc vous êtes ce qu'Olivier Dussopt nous raconte, d'ailleurs.
Absolument, c'est souvent
un ministre.
Et dans
celui-là, pour la négo,
les ministres.
Et dans cette génération Macron, on peut aussi ajouter Olivier Dussopt, qui est un ministre qui a la confiance d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs, il lui donne la réforme.
Mais Clément Beaune reste aux affaires européennes.
Papendiaï arrive, mais simplement promu
ministre délégué.
Absolument.
Papendiaï vient d'arriver au ministère de l'Éducation nationale. Il salue Jean-Michel Blanquer, qui est avec Sarah El Haïry, justement. Pour cette passation, on verra, on les entendra prendre la parole. Enfin, là, de toute façon, je pense qu'ils vont s'éclipser pour discuter entre Louis Dragnel. On parlait de Dupond-Moretti, justement.
Éric Dupond-Moretti, bah, clairement, la justice était persuadée qu'elle allait pouvoir s'en débarrasser. Clairement, c'était une guerre de...
Ah, mais
absolument. Ah, ouais. Et d'ailleurs... les syndicats de magistrats, enfin beaucoup de syndicats de magistrats, ont réclamé plusieurs fois le départ d'Éric Dupond-Moretti de la place Vendôme. Donc c'est vraiment une manière aussi de la part d'Emmanuel Macron de dire, bah, écoutez, bien rester, c'est comme ça.
Ça vous plaît pas, c'est comme ça.
Et même surtout parce que ça vous plaît pas, c'est lui qui va...
Et surtout parce que ça vous plaît pas,
Jean-Bélecouche,
vous pensez que
je pense qu'il y a vraiment une volonté de cette nature de la part d'Emmanuel Macron. Non, ce qui est important, c'est ce que disait aussi tout à l'heure Bruno Jeudy, il y a vraiment un pack de continuité, le pack régalien, si on peut parler comme ça, économie, intérieur, justice, défense, armée, pardon, avec Sébastien Lecornu, avec soit des promotions... mais en tout cas, il y a une vraie continuité, c'est-à-dire que ce sont des profils qui vont rester, qui connaissent leur dossier, et donc là-dessus, voilà, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas vraiment de surprise, et je termine simplement, sauf si Jean-Michel Blanquer commence à parler.
Non, mais par contre, il y a un truc qui s'appelle la pub qui va arriver.
Ah, pardon, excusez.
Beaucoup plus important.
Excusez-moi, c'est beaucoup plus important. Non, je voulais juste noter une toute petite chose, c'est où sont les prises de guerre de droite, parce qu'il y a donc l'entrée
de gauche. On va en parler après la pub.
De deux personnes.
On va en parler après la pub.
De gauche,
on va en parler après la pub. 18h16. Vous restez avec nous, c'est la semaine politique d'Europe 1.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table Jérôme Beglet, directeur général du JDD, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1 et Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique de Paris Match. Louis, les prises de la droite finalement dans ce gouvernement et l'influence de Nicolas Sarkozy assez maigre.
Mais les prises de droite sont assez maigres effectivement parce que Damien Abad, c'est un secret pour personne qu'il souhaitait... rejoindre le gouvernement. Et puis Christophe Béchu, donc, qui est désormais ministre des collectivités territoriales, proche d'Edouard Philippe, maire d'Angers, donc ça faisait quand même quelques temps qu'il avait quitté les Républicains. Donc c'est pas non plus une surprise énorme. Ce que je note simplement, c'est qu'il y avait deux prises de guerre possibles. Catherine Vautrin, qui, qui a failli être Premier ministre, qui ne fait même pas partie de l'équipe gouvernementale. Et puis Éric Woerth, le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, qui avait quitté les Républicains pendant la campagne présidentielle pour rejoindre Emmanuel Macron. Éric Woerth, c'est pas n'importe qui.
Il se voyait ministre.
Absolument, bien sûr. Il aurait beaucoup aimé soit Bercy, soit le ministère de la Défense, des Armées.
Bercy.
Absolument. Mm. Et je note simplement une deuxième chose, c'est la dégringolade d'Olivier Véran, donc le ministre, l'ancien ministre de la Santé, qui a sans doute dû pâtir de son image qui est quand même très associée au virus, à la maladie, et donc qui désormais est ministre chargé des relations avec le Parlement, ministre délégué.
C'est un lot de consolation pour Olivier Véran. Si
ça montre surtout qu'il a voulu à tout prix rester au gouvernement, puisque je pense à d'autres ministres, si on leur avait proposé ça, ils auraient immédiatement claqué la porte et ils auraient dit merci.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les temps ont changé? Ça veut dire qu'aujourd'hui on accepte facilement des ministres de seconde zone,
j'allais dire? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que quand vous êtes à ce point marqué à un événement pas agréable, voire dramatique de la vie de votre pays, on veut vous escamoter assez vite quand c'est le retour aux jours heureux. Or, Olivier Véran, c'est le Covid, qu'il le veuille ou qu'il le déplore, c'est ça. Deuxièmement, il y a des gens qui sont prêts à tout pour rester ministre parce que les voitures, les pimpons, les machins, ça leur plaît. Bon.
Ah oui, donc c'est pas une légende.
Donc, non. Il y en a eu d'autres avant lui, il y en aura d'autres après lui.
Bon,
j'imagine qu'il a voulu coûte que coûte rester dans le gouvernement, qu'on lui a dit mon vieux c'est ça ou rien, et il a préféré ça à retrouver son siège de député de l'Isère, je crois qu'il était élu dans l'Isère. Ça le regarde, c'est sûr que c'est pas le même travail que d'aller papoter. Alors, en même temps, il faut être très convivial, il faut avoir une... Je crois que c'est l'hôtel de Clermont, les ministères de relations avec le Parlement, il y a une grande salle à manger, il faut inviter les sénateurs et les députés régulièrement.
Une des meilleures cantines de la République.
Ça a la réputation d'être l'une des meilleures cantines de la République, donc...
Louis de Ragnel se lève les babines en y parlant.
Plein de souvenirs qui me reviennent.
Je partage un choix étonnant de la part d'Olivier Véran, qui est devenu une des personnalités politiques de ce quinquennat écoulé les plus connues des Français. Hein. Il est deuxième ou troisième ministre le plus populaire quand même, parce que sa gestion de la crise a été plutôt saluée par les Français, même si elle a été chaotique, critiquée, tout ce qu'on veut. Plusieurs amis et conseillers lui avaient dit « Tu dois fermer toi aussi la page Covid, écrire un livre, capitaliser là-dessus, rester à l'Assemblée. »
Et il l'a pas fait.
Et sans doute que l'appel du portefeuille a été plus fort, il voulait rester. C'est un homme d'action, donc peut-être qu'il s'est dit « Je vais m'ennuyer à l'Assemblée. »
Enfin, action en relation des ministère des Relations avec le Parlement.
Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec
le fait et les grands projets.
Que c'est pas le plus grand des ministères, même s'il a salué deux de ses prédécesseurs isérois. Un mot quand même sur une personnalité qui était pour le coup, alors c'est l'autre surprise parmi les absents, il y a beaucoup d'absents, puisque à peu près quand même près de 20 ministres qui sont pas repris, c'est Julien de Normandie. Oui. Alors lui, franchement, personne n'avait imaginé qu'il renonce ou qu'il ne soit pas dans la liste.
Il
a même été donné à un moment premier ministrable. Il a largement participé à la campagne et manifestement c'est une décision
une
personnelle
pour lui.
C'est une décision personnelle.
Jérôme Begley a une petite idée pour Julien de Normandie.
Il va falloir un responsable, je ne sais pas si on appellera président ou délégué général du nouveau parti majoritaire, un peu tenace et
mais
idem.
Du coup, de Renaissance ou de Ensemble?
De Renaissance. Ouais. Et idem, un président du groupe à l'Assemblée nationale, un peu...
Mais il n'est pas candidat. Jérôme, il n'est pas candidat, Julien de Normandie.
Il a jusqu'à ce soir pour changer son fusil d'épaule.
Non, mais à mon avis, enfin, j'en sais rien, mais il n'est pas candidat.
Je rappelle que Guillaume Pelletier vient d'annoncer à la surprise générale qu'il était finalement candidat aux législatives.
Ouais.
Comme quoi, on a encore...
C'est vrai qu'Éric Solaire, ce matin, a annoncé qu'il n'était pas candidat.
Donc,
vous avez, en ce moment, messieurs, la passation de pouvoir entre Roselyne Bachelot, qui, de toute façon, était fatiguée et qui ne voulait pas refaire un mandat à la rue de Valois, et la nouvelle ministre de la
Culture, qui était la conseillère culture d'Emmanuel Macron et qui a presque fait office de ministre pendant la période où Roselyne Bachelot a été malade et covidée.
Ouais, et alors on a entendu pour le coup des noms à la culture, comme d'habitude souvent à la culture.
Guillaume Gallienne, Catherine Pégard,
Patrick Chazal,
Patrick de Carolis, ce sont des gens qui sont candidats à beaucoup de choses. Jean-Marc Dumontet, enfin c'est des gens qui effectivement qui en rêvaient mais voilà, ils se sont fait doubler par...
Souvent, c'est les mêmes noms qui circulent, d'ailleurs.
Bruno a raison, elle était ministre de la Culture, voire vice-ministre de la Culture, pendant quasiment tout le quinquennat, et elle a une très bonne réputation, femme de dossier.
Conseillère souvent... très proche du couple présidentiel.
Et c'est
présidentiel.
Chez elle que se tranchaient des questions culturelles bien plus que rue de Valois.
Il y a ceux qui partent, vous le disiez, Bruno, jeudi, Blanquer, Pompili, De Normandie, Bachelot, Schiappa, Moreno, je ne les cite pas tous, mais il y a quand même une grande vague de départ, Louis Dragnel.
Alors il y a une vague de départ, mais dans la vague de départ, il y aura peut-être certains ministres sortants qui seront renommés s'ils gagnent aux élections législatives après le deuxième tour des élections législatives. Là, c'est une première mouture, d'ailleurs, vous avez noté, il y a très peu de secrétaires d'État. J'ai compté, il me semble qu'il y en a deux ou trois.
Moi, j'en ai quatre.
Quatre, pardon, excusez-moi.
Olivia Grégoire, Justine Bénin, Madame Cobel pour l'enfance et une dame pour le développement. Il va falloir me redonner son nom. Merci.
Pour la francophonie. Donc, pour l'instant, il y a peu de secrétaires d'État et il y a fort à parier quand même qu'au lendemain des élections législatives, Emmanuel Macron étoffe cette liste de secrétaires d'État pour... tenir compte du résultat des élections. Donc je pense, je sais pas, par exemple à Sarah El Haïry qu'on voyait tout à l'heure sur le perron du ministère de l'Éducation nationale. Si elle remporte les élections et que le président considère qu'elle a encore des choses à faire au gouvernement, elle pourrait tout à fait être
nommée
à nouveau
secrétaire
d'État. Enfin
pas tous, parce que Marlène Schiappa, elle va, comme on le disait précédemment pour le cas d'Olivier Véran, elle va peut-être pas accepter un poste de secrétaire d'État.
Non, je crois qu'elle a d'autres projets.
Jérôme Meglé. Ministre nouvellement nommé, il y en a peu qui vont avoir peur lors de ces législatives. Parce que d'abord, il y a assez peu de candidats. Catherine Colonna n'est pas candidate.
Bruno Le Maire non plus.
Bruno Le Maire ne l'est pas.
Non, mais il y a quand
plus.
Même Elisabeth Borne, Clément Beaune qui tente un parachutage.
J'ai regardé ce
Gérald
matin.
Gérald Darmanin, c'est quand même c'est un sortant.
J'ai regardé ce matin avec beaucoup d'attention la Elisabeth circonscription. Borne,
c'est très facile.
Dans l'heure d'Elisabeth Borne, ouais. Finger in the nose.
68% Alain Touré, son prédécesseur en 2017. Mais quand même, c'est une élection, ça se gagne. Et quand vous vous présentez pour la première fois, ça reste toujours un moment un peu délicat.
Vous savez très bien qu'un Premier ministre qui se présente dans une circonscription, il va bénéficier, quelle que soit son étiquette.
Bien sûr.
Ah, on va porter attention sur nous, nous aurons quelques crédits et on sera mieux défendu que par le prédécesseur.
Mais je pense que Clément Beaune fût dans le centre de Paris, puisqu'il est candidat dans cette circonscription, ça reste quand même une bataille.
Oui, c'est plus compliqué.
Face à un écologiste, enfin un candidat de la NUPES, l'écologiste Béliard, il faut quand même gagner.
Clément Beaune qui est sous le tutorat de Catherine Colonna. On parlait tout à l'heure de Catherine Colonna. On le disait que c'était, Bruno, le retour de la Chiraki, et on se souvient, je pense tous autour de cette table, peut-être pas Louis parce qu'à mon avis il n'était pas né, mais de cette Chiraki qui disait non à la guerre, en l'occurrence en Irak.
Oui, c'est presque c'est un retour de la Chiraki via Catherine Colonna, qui a été sa porte-parole historique pendant sa présidence, en tous les cas jusqu'en 2002. Je crois. Ensuite, elle devient, au milieu du deuxième mandat, elle devient secrétaire d'État. Ministre délégué aux affaires européennes dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Et évidemment, elle a participé à cette politique de Jacques Chirac, qui était une politique de dire non à la guerre en Irak, de s'opposer aux Américains. Elle a participé à tout ça. Donc oui, c'est très symbolique de voir Catherine Colonna arriver dans ce contexte aujourd'hui de guerre en Ukraine.
Et de guerre interne aussi au Quai d'Orsay, parce que figurez-vous qu'il y a une manifestation qui est prévue par le corps diplomatique qui refuse la suppression de son corps. Et donc je pense qu'il y a aussi un enjeu interne qui est peut-être pas perceptible pour le grand public, mais de gestion et de tenue du ministère des Affaires étrangères pour éviter qu'il y ait une fronde trop importante, puisqu'elle est quand même, on l'a rappelé tout à l'heure, elle fait partie des très peu de personnes qui peuvent utiliser le titre d'ambassadeur de France à vie. Il n'y a que trois femmes aujourd'hui qui sont titulaires, qui peuvent porter ce titre. Et donc elle est très crédible au sein du Quai d'Orsay, pour le corps diplomatique, pour les diplomates. C'est important et elle a une vraie légitimité. Je pense qu'elle ne sera pas contestée au sein de son ministère.
Jérôme Béglé, un mot sur Catherine Colonna ?
Non, alors, c'est vrai que elle n'est pas forcément va-t-en-guerre, si j'ose dire, elle n'a pas à gérer des conflits tels que ceux que la France est en train de subir en ce moment. Mais 15 ans se sont passés depuis les années Chirac.
Oui.
Donc, un homme et une femme, ça change.
Ça peut changer. Ouais. Allez, on marque une nouvelle pause et dans un instant, on revient sur la semaine politique. Europe 1, JDD, Paris Match, restez avec nous sur...
La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneau.
Avec Bruno Jeudy de Paris Match, Louis de Ragnel d'Europe 1 et Jérôme Béglé du journal du dimanche. Réaction, on a entendu tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, spécifiquement sur la nomination de Pap Ndiaye, nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui devrait d'ailleurs s'exprimer dans quelques instants. Autre réaction, à l'autre extrême, j'allais dire, celle d'Éric Zemmour, qui est candidat Reconquête dans le Var. Écoutez ce qu'il dit de cette nouvelle composition du gouvernement.
Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin d'être nommé Premier ministre, il a déjà son gouvernement. Tous les ministres régaliens sont reconduits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Dupond-Moretti à la justice, qu'il y a toujours Darmanin à la police, donc ça veut dire toujours plus d'immigrés. Le ministre qui me frappe le plus, c'est évidemment la nomination de Pap Ndiaye, qui est à l'Éducation nationale, qui est un intellectuel indigéniste, c'est un woke, c'est quelqu'un qui est obsédé par la race, qui a écrit sur en particulier la race noire, qui a participé à des réunions interdites aux Blancs. Et si vous voulez, pour moi, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire la France, et bien son ministre de l'Éducation nationale va le faire.
Bon, qu'est-ce qu'il fait Zemmour ? Il fait du Zemmour ?
Ah, il fait du Zemmour, il est en campagne. Après, ce sont pas c'est pas une réaction très surprenante de sa part. Et effectivement, quand il cible Pap Ndiaye, c'est
wokiste. Attention, c'est assez instable au boss quand même beaucoup de.
Absolument. Hein,
wokiste, indigéniste,
race blanche,
qui est opposé aux réunions, enfin ou plutôt favorable aux réunions anti-blancs. C'est ça, Pap Ndiaye ? Ou c'est grossi par Éric Zemmour ?
Bah, c'est forcément grossi, puisque une personne ne peut pas être résumée comme ça en 25 secondes. Mais c'est aussi ça. C'est ça, Pap Ndiaye. Et donc, la phrase d'Éric Zemmour n'est pas étonnante. Et globalement, pour sortir un peu d'Éric Zemmour, je pense que Pap Ndiaye, les prochains jours vont être très compliqués, puisqu'il va falloir qu'il assume des propos qu'il a tenus par le passé. Jean-Luc Mélenchon a ouvert le bal. Et puis, il y a tellement de déclarations. Et puis, ce n'est pas des déclarations à l'emporte-pièce comme ça. Il y a des. Où on sent que c'est le fruit d'une réflexion. Mmh. C'est quelqu'un qui est un spécialiste des questions raciales et sociales aux États-Unis. Donc, il a beaucoup, beaucoup réfléchi là-dessus. Et il parle beaucoup des concepts de race.
Oui, voilà, sur Rosa Parks, sur Martin Luther King.
Exactement.
Sur, bien sûr, toute
donc,
cette
si
mouvance.
Si vous voulez, ce sont des débats sur lesquels, en France, on n'est pas très à l'aise, il y a une sorte de tabou autour de toutes ces questions-là. Donc je pense qu'il va falloir qu'il se dote d'une sacrée équipe, puisque on voit là, ça y est, c'est parti. Il y a énormément d'attaques qui se concentrent sur lui. Donc ça passe ou ça casse, on verra ce qu'il fera.
Jérôme Béglé.
Pap Ndiaye, c'est un pari audacieux. Nul doute que déjà des dizaines de personnes sont en train de se précipiter sur ce qu'il a écrit, dit, pensé et tweeté depuis plusieurs années. Et qu'effectivement, il va y avoir des turbulences dans la carlingue et il faudra qu'il tienne solidement accroché à son siège. Un petit mot sur Éric Zemmour. Nous publions après-demain dans le journal du dimanche le premier sondage sur sa circonscription dans laquelle il se présente, la quatrième circonscription du Var. Mmh.
Donc c'est Cogolin, Saint-Tropez,
ouais. Ramatuelle. Surprenant.
On n'en sait pas plus et on lira dimanche. Bruno Jeudy, sur ce qui vient d'être dit.
Sur la réaction d'Éric Zemmour à Pap Ndiaye, bon, elle n'est pas surprenante. Moi, je trouve que toujours, c'est des propos hâtifs qui résument de manière caricaturale l'action d'un historien. Il a des positions qui sont connues. Il faudra voir après le voir à l'œuvre, à l'action. Il va s'intégrer dans une équipe gouvernementale. Ce sera sans doute pas simple, mais je crois que la tâche qui lui est attribuée n'est pas simple. C'est une réforme extrêmement compliquée, ce que veut faire Emmanuel Macron, si on revient à sa promesse. Après, Éric Zemmour comme Marine Le Pen ont trouvé leur nouvelle cible, comme ils avaient en leur temps sous François Hollande pilonné Christiane Taubira. Et vous verrez que très rapidement, vous aurez une couverture de Valeurs Actuelles. Enfin voilà, ils ont trouvé un petit business pour les années qui viennent. Après, je trouve que tout ça, les Français, ils s'attachent un peu moins. Ils vont d'abord voir s'il est capable de réformer l'éducation nationale avant de savoir.
Je suis pas tout à fait d'accord
avant
avec
de savoir si c'est un woke ou je sais pas quoi. Je crois que c'est ça qui va compter. C'est est-ce que on fait une réforme de l'éducation nationale. Emmanuel Macron, il aura plus beaucoup d'excuses. Hein. Deux mandats. il fait les choses ou il les fait pas. Mmh. C'est ça que les Français vont voir.
Les fameuses réformes structurelles.
Voilà.
Louis Dragnel.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bruno Jeudy. Je crois vraiment que l'éducation nationale, c'est devenu un sujet extrêmement sensible. Il y a effectivement la question de la réforme structurelle de l'institution, mais il y a aussi chaque année des débats interminables sur la question des programmes, de ce qui se trouve dans les manuels. Et clairement, quand on écoute, on lit les propos, les déclarations de Pape Ndiaye, eh bien, il y a beaucoup de parents d'élèves qui ce soir, à mon avis, vont être assez inquiets, vont se dire bah, on a besoin d'avoir une clarification, on a besoin de savoir ce qu'il veut réellement faire en termes de contenu pour les programmes scolaires. Et je pense pas du tout que ce soit un sujet anodin ou auquel les Français n'attachent pas d'importance.
Jérôme Meuglet.
On peut avoir une vision un peu différente de tout cela en se disant, après tout, peu importe le ministre, le seul qui décide, c'est Emmanuel Macron.
Oui.
D'ailleurs, s'il a hésité comme Premier ministre entre Catherine Vautrin et Elisabeth Borne, qui sont quand même deux profils aux antipodes, ça veut dire que peu importe qui est installé à l'hôtel de Matignon, la politique
c'est
se décidera
décide.
À l'Élysée.
Ouais. Et ça et donne une idée de la plasticité intellectuelle d'Emmanuel Macron, voilà. Passant d'une pro-mariage pour tous.
Auditeur de
peu importe, il s'en fiche, c'est lui qui va décider.
Oui, oui,
et idem
sûr,
pour les ministres. D'accord. Donc Blanquer, Pape Ndiaye, après tout, on peut estimer que ce sera bonnet blanc, blanc bonnet. Ça peut être une interprétation. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais j'ai toujours cru qu'Emmanuel Macron était plus... ennuyé par ses ministres que aidé par ceux-ci.
Alors, avec cette fin de journée et ce soleil couchant sur le ministère de la Transition écologique, nous avons vu, alors je le dis pour les auditeurs de la radio qui évidemment n'ont pas l'image, nous avons eu Amélie de Montchalin en rouge, Agnès Pannier-Runacher en orange et Barbara Pompili en rose. Il y a eu une espèce d'image assez hallucinante, presque hallucinogène. Donc il n'y a pas de vert. Je me souviens que quand il y avait eu Nicolas Hulot à la passation de pouvoir pour accueillir Nicolas Hulot, on avait mis un tapis vert et non pas un tapis rouge. Sur ce ministère de l'écologie, je me souviens du discours de Marseille d'Emmanuel Macron, pour revenir toujours à lui, puisque effectivement c'est lui qui pose le cap des différents ministères, des différents portefeuilles. Comment ça s'articule? On a donc une Agnès Pannier-Runacher qui est spécialiste de l'énergie. Finalement, beaucoup disent qu'elle ne quitte pas beaucoup son portefeuille. Et sur l'autre aile, aidez-moi, on a Amélie de Montchalin sur la planification. Est-ce que tout cela a un sens d'une certaine manière?
En tout cas, il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron de communiquer, d'insister là-dessus, puisque ces deux ministres... D'ailleurs, rappelons simplement, dans la phrase d'Alexis Kohler, lorsqu'il annonce la composition du gouvernement, il dit, moi c'est la première fois que je l'entendais, il commence par Elisabeth Borne, la première ministre, et il dit « chargée ». De la planification écologique, comme si elle avait, en plus de Premier ministre, un titre sur lequel il voulait vraiment insister. Et donc, ces deux ministres qui sont placés... Alors, la phrase est complètement...
Sachant qu'elle a été ministre de l'écologie avant, Elisabeth Borne. Hein,
de manière un peu abusive, la communication à l'Élysée explique qu'il y a ces deux ministres qui sont placés directement auprès du Premier ministre. Donc, on voit qu'ils veulent vraiment insister là-dessus pour montrer que l'écologie est une préoccupation de ce nouveau gouvernement pour le nouveau quinquennat. Simplement, voilà une chose, pourquoi est-ce que je dis que c'est abusif? Parce que, par définition, tout ministre du gouvernement est rattaché au Premier ministre. Il n'y a pas besoin d'être rattaché particulièrement à Matignon pour montrer qu'on agit sur un dossier.
Mmh. Bruno Jeudy, j'espère
que ça aura du sens, ces deux grands ministères de la transition écologique et de la planification écologique, parce que au fond, et si Emmanuel Macron l'a annoncé dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, c'est parce qu'il sait que son premier mandat n'a pas été suffisamment efficace pour beaucoup d'observateurs, de spécialistes et même les Français quand ils sont interrogés sur l'action en matière d'écologie. Là, il s'agit de passer à la vitesse supérieure, et quand qu'il parle, et s'il emploie le mot de planification, c'est que la France, comme beaucoup de pays, doit tenir des objectifs extrêmement précis en termes de réduction des gaz à effet de serre, en termes de la fin du moteur thermique d'ici une quinzaine d'années. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, et donc il fait appel à deux ministres qui sont plutôt des femmes assez méthodiques, voire très méthodiques. Ça peut fonctionner avec ce trio, je trouve. Alors, qu'en tous les cas, il y a un sens là, il y a quelque chose qui s'organise.
Et il y a un chaînon manquant, parce que vous remarquerez, et c'est un interlocuteur bien renseigné qui me le fait remarquer à l'instant par message, qu'il n'y a pas
d'écologiste au gouvernement.
Non, il n'y a pas de ministre de transport,
oui.
Ni des PME.
Attendez.
Voilà.
deux choses. D'abord,
Jérôme Béglé, JDD.
Ce gouvernement sera complété, il y aura un gouvernement Borne 2 au lendemain du 19 juin, c'est-à-dire après les législatives, et on rajoutera, alors là il y a 27 membres du gouvernement, il y en avait 42 dans les gouvernements Castex, donc on peut penser qu'il y a une dizaine de ministres délégués ou de secrétaires d'État qui vont arriver sur des portefeuilles plus restreints. Donc ce n'est pas solde de tout compte, si je puis dire. Par ailleurs, sur l'écologie...
Bon, ça veut aussi dire que les transports, c'est seconde zone, ça arrivera après, c'est pas grave.
Quoi. Non, mais ça va être attaché à l'un des ministres
de l'écologie,
je ouais. pense, d'ici là. Alors, ne pensez pas que l'écologie sera l'affaire de trois personnes, Elisabeth Borne, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Et ça va aussi concerner, pardon, mais Bruno Le Maire, qui est quand même le premier des ministres après la première ministre, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, donc il va avoir son mot à dire là-dedans. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, aura aussi son mot à dire. La secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Benin, aura aussi son mot à dire. Ça va être quand même un ensemble d'une dizaine ou d'une demi-douzaine, voire une dizaine de ministres qui vont être directement chargés de cette question-là. Donc je ne suis pas certain qu'on soit en si petit comité que cela, et que, alors, par ailleurs, rajoutons à cela le commissaire au plan, oui. M. Bayrou, qui n'a pas été remporté dans la démission du gouvernement Castex, et qui, en tant que commissaire au plan, la planification, ça va le concerner un petit peu, si je puis m'exprimer ainsi.
Oui, et donc du coup, ça veut dire que toute décision concernant l'écologie, la voiture électrique, les nouveaux moyens de mobilité, tout ça, ça va être pris à, non pas à une ou deux personnes, mais peut-être à 10 ou 12 personnes.
Mais ce que ça veut dire, ce que ça veut dire quand même, c'est que tout va s'articuler en fonction de l'écologie. Il y a une nouvelle matrice que Emmanuel Macron veut inventer.
Mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre, disait Jérôme.
Mais c'est une immense rupture. Et donc, je pense que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il se dit il n'y a pas trop de deux ministres étiquetés à temps plein sur ces questions-là pour gérer la question de l'écologie et surtout répondre à toutes les inquiétudes d'un certain nombre de Français sur ces sujets.